Aujourd'hui, la masterclass de Masha Makeyev avec Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour Masha Makeyev.
Bonjour.
Vous allez répondre à des questions qui vont beaucoup commencer par le mot « comment », puisque c'est le but de ces masterclass sur France Culture, de chercher à comprendre la manière dont travaillent un certain nombre d'artistes dans divers domaines, d'aller voir dans la tête des créateurs ce qui se passe. Alors certains invités peuvent être peut-être effrayés lors de ces masterclass d'avoir du public ici en phase 2. J'imagine que pour vous, ça n'est pas le cas. Vous êtes habitué évidemment à la scène.
Au contraire, j'aime beaucoup ce face-à-face qui est comme une longue et subtile conversation depuis très longtemps.
C'est aussi un plaisir, une stimulation d'avoir en face de vous des gens qui vous regardent.
J'aime beaucoup cette géométrie du théâtre qui consiste à voir les gens s'asseoir à côté d'anonymes, de gens qu'ils ne connaissent pas, et pour partager le même moment. Je trouve qu'il y a là un acte de liberté première que j'aime infiniment et qui est à la fois archaïque et extrêmement raffiné. Et la curiosité de l'autre, et pas seulement de l'autre qui est à côté, mais aussi la tolérance de s'asseoir à côté de quelqu'un qui n'était pas prévu dans sa vie. Et voilà, ça, je pense que c'est une grande force du théâtre.
J'ai une question un petit peu absurde. Est-ce que vous feriez du théâtre s'il n'y avait pas de public ?
Probablement. Le théâtre ressemble un peu à la Nef des Fous, et je pense que la Nef des Fous aurait existé, même sans public. Mais après tout, il suffit de tracer avec un morceau de craie une ligne sacrée, et le théâtre est là, même s'il y a le fantôme de quelqu'un. Mais même s'il n'y avait personne, cette trace au sol, cette frontière, parce qu'on ne fait jamais assez l'éloge de cette frontière, là, celle-là, eh bien, elle se met à faire exister le théâtre.
Oui, les autres frontières, on en parle beaucoup. Alors, quelques mots pour vous présenter, Masha Makeyev. Il faut dire d'abord que vous êtes metteuse en scène, vous êtes costumière, vous êtes plasticienne, décoratrice et auteur dramatique. Vous êtes née en 1953 à Marseille, ville où vous résidez actuellement. J'ai eu envie de dire où vous résidez toujours, mais en fait, cela aurait impliqué que vous n'avez pas quitté cette ville. Or, vous l'avez quittée puisque à 20 ans, après avoir fait le conservatoire d'art dramatique, vous êtes partie à Paris pour étudier la littérature à la Sorbonne. Et 5 ans plus tard, c'était en 1978, vous avez fondé avec Jérôme Deschamps la compagnie Deschamps-Makeyev, avec laquelle vous allez mettre en scène un très grand nombre de pièces qui s'appellent « Les Blouses », Ces dimanches, Les Oubliettes, Les Petits Pas, Lapin Chasseur, Les Pieds dans l'eau. Et en 1993, vous allez produire pour la télévision la célèbre série des Deschiens avec François Morel, Yolande Moreau, Olivier Saladin et bien d'autres encore. Et puis après, vous allez ajouter la mise en scène d'opéra à celle de théâtre avec L'Enlèvement au Sérail de Mozart, avec Le Bœuf sur le Toit de Darius Milhaud, avec Les Mamelles de Tirésias de Poulenc, pour ne donner que quelques exemples. Et puis en 2003, vous partez à Nîmes avec Jérôme Deschamps, qui devient à ce moment-là directeur du Théâtre de Nîmes, dont vous assurez...
Artistique.
Directeur artistique.
Oui, on n'a jamais été directeur.
Et vous étiez également co-directrice artistique.
Oui, on était pendant 3 ans ensemble, et puis moi 3 ans toute seule. Oui.
Ensuite, vous revenez à Paris, et là, vous fondez votre compagnie à vous.
Oui, mais qui tout de suite s'endort, parce que je suis nommée à la Criée. Retour à Marseille.
Elle s'appelait comment cette compagnie ?
Mademoiselle.
Pourquoi Mademoiselle ?
Ah, allez savoir. Parce que c'est le nom qu'on donne aux femmes de théâtre, quel que soit leur âge, leur destinée. On reste dans sa propre mission, de son propre destin. On n'est entravé par rien. On est Mademoiselle. C'est bien.
Donc de Deschamps-Makeyev, vous êtes repassé à Mademoiselle. Écoutez, coup que vous êtes repassé au singulier.
Oui, par la force des choses, Jérôme étant à l'Opéra Comique, qu'il dirigeait pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup. C'est vrai que c'était aussi une période où nous faisions l'un et l'autre beaucoup d'opéras, mais le théâtre était la source et restait la source. Et entre mon arrivée à 19 ans à Paris et la compagnie que nous avons fondée, Jérôme et moi, il y a eu Antoine Vitez. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que c'est une rencontre fondatrice que c'est un être de liberté, de savoir et d'intelligence et immense qui m'a plus que marqué puisqu'il il nous a regardé surtout. C'est très important parce que quand on est un jeune ou une jeune artiste, on a besoin du regard des autres et notamment de quelqu'un comme ça dont on cherche l'estime. Et puis après, oui, il m'a autorisé à faire mon premier spectacle au Théâtre des Quartiers d'Ivry et écrire les premiers textes pour ses Molières. On parlait beaucoup des évangiles parce qu'il était fasciné par la culture chrétienne. Et voilà, donc c'était une conversation que quelquefois j'ai l'impression aussi, parfois, si je m'applique, à continuer aussi. Et il faut continuer à parler avec ceux qui nous ont précédés ou ceux qu'on a croisés qui ne sont plus forcément là. Mais au théâtre, le théâtre a cette force incroyable de convoquer ceux qui sont passés par là, que ce soit il y a un siècle ou que ce soit il y a 10 ans, 33 jours. Il y a une espèce d'empilement des âmes quand on commence la répétition. Et moi, j'aime bien prendre ce moment de convocation. C'est ma manière à moi de la méditation après tout. Alors, évidemment, c'est assez souriant. Par exemple, je convoque beaucoup Yolande, quelles que soient les circonstances. Je me dis, tiens, elle est là. Les acteurs avec qui.
Avec vous.
Oui, je pense qu'elle est là. Sur le plateau, elle a sa place. Elle trace quelque chose. Même. Et je travaille beaucoup avec les absents comme ça.
Et Vitesse, qu'est-ce qu'il vous dit alors dans ces cas-là?
Il dit beaucoup de choses, Antoine. Il dit qu'on peut faire théâtre de tout. Que personne n'est exclu de cet air sacré, que ça peut être dans un préfabriqué d'Ivry, que ça peut être sur la scène de la Comédie-Française, peu importe. Ce qui compte, c'est aussi, et ce qui comptait pour lui et qui, moi, m'a touchée, c'est les liens qu'il tissait d'un poète à un autre, au-delà justement des cultures et des frontières, que ce soit de Ritsos à Tchekhov. Il y avait quelque chose comme ça. Et il nous prenait aussi tel qu'on était. Il n'y avait absolument aucune forme de préjugé. Et on pouvait y assister. Si on était mutique, ce qui était un peu mon cas à l'époque, je n'avais pas pris le temps de penser qu'il fallait parler. Donc je parlais peu. Moi, j'avais un frère qui avait cessé, lui, carrément de parler. Et voilà, qui n'a pas beaucoup parlé depuis. Et donc, j'aimais bien contempler. Et même si je me taisais, j'avais ma place. Et comme il l'a compris, il m'a dit, tiens, tu devrais m'écrire ces textes. Et après la conversation a commencé. Et puis, il a écrit un jour sur un petit bout de carton que j'ai toujours. Ton regard, je le reconnais. J'avais trouvé ça magnifique, je l'avais gardé, mais je n'avais pas tout compris. C'était comme une prophétie, au fond. Il savait aussi que... Peut-être qu'on en parlera, qu'il y a quelque chose qu'on appelle la malédiction d'être une femme, et que de cette malédiction d'être une femme, ça peut devenir aussi une forme de puissance. Voilà. Et chaque fois que je retrouve son mot, que je ne cherche pas, mais qui ressort comme ça, et c'est un peu magique, quelque chose se dit de la vie actuelle à chaque fois.
Donc ça, c'est une figure positive. Est-ce qu'il y a aussi des figures négatives qui vous aident à travailler ? Un peu pour travailler contre, hein.
Oui,
travailler
oui,
en miroir, mais contre.
Oui, oui. Les choses que j'ai toujours détestées, c'est l'arrogance et c'est l'esprit de sérieux. L'absolu esprit de sérieux qui est souvent, qui vient souvent combler une absence de profondeur. Je pense que le rire, et peut-être qu'on en parlera un peu plus longuement, mais le rire, c'est vraiment le contraire de ça. C'est quelque chose qui... la fantaisie vient parce que le drame serait insupportable, et la fantaisie, c'est une éthique. C'est pour justement aller vers l'autre et que l'autre puisse faire un pas vers vous au moment de la représentation, que ce soit un acte de liberté réciproque. Et la fantaisie, c'est une forme de l'élégance aussi. Et donc, voilà, j'ai toujours détesté le véritable esprit de sérieux.
Mais le sérieux peut venir aussi parfois d'une forme de gêne. Le sérieux, ça peut être aussi une manière de se cacher.
Bien sûr, mais alors on peut en rire ensemble. Bien sûr.
Et alors ça, c'est un travail que parfois vous devez faire avec les acteurs, de leur faire comprendre comment ne pas être dans le sérieux, même si c'est un sérieux qui est là pour cacher une faiblesse, pour cacher une fêlure.
Je m'y prends pas comme ça, en fait. Je leur dis pas, oh là là, surtout ne soyons pas sérieux. Pas du tout, au contraire. Je les conduis doucement vers quelque chose qui va être de l'ordre de l'aveu. C'est-à-dire du, et on travaille sur le presque soi. Donc si on travaille sur le presque soi, c'est travailler déjà avec une part de soi. Et après, il faut laisser venir toute forme de hasard poétique qui font que l'aveu va avoir lieu, qu'il y aura une minute absolument étonnante, absolument unique qu'on va recueillir et qu'on va chercher à reproduire chaque soir. Mais il faut arriver à cet état d'innocence, et si on doit parler de l'enfance, et je pense que c'est fondateur, il faut arriver à cet état d'innocence des enfants quand ils jouent. Quand on a 6 ans et qu'on fait le chien, on fait le chien. On se regarde pas en train de faire le chien. On est le chien. Et souvent, on a mal au cou. Voilà, moi, je demande aux acteurs cette espèce de plein pied. Ça, c'est du côté de l'inspiration, parce que je pense que ce sont des artistes à part entière, de ce point de vue-là. C'est pas du tout des sujets. Et puis après, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Vous parlez d'enfance. On entend un petit peu que vous parlez aussi de l'inconscient. Est-ce qu'il y a de la psychologie, voire de la psychanalyse, à faire avec les acteurs? Comment est-ce que vous appréhendez finalement toute la part d'inconscient qu'il y a entre deux personnes pour faire passer, peut-être pas un message ni une manière de jouer, mais simplement une intention?
Oui, il y a deux choses. Il y a quelque chose, c'est vrai, de l'ordre d'un transfert. Je ne pense pas qu'il soit psychanalytique. Je ne pense pas. Je pense qu'il est plutôt comme une transmutation. Et je pense qu'il a lieu si il y a eu une vaste, grande, longue préméditation. Alors la préméditation, c'est évidemment le travail sur une œuvre si on s'empare d'une œuvre d'un autre. Une autre forme de préméditation, si c'est quelque chose qu'on va fabriquer ensemble. Mais au moment où on est là, cette préméditation, elle a été très puissante, très forte. Elle a duré plus d'un an, et moi, elle en passe toujours, même s'il y a un texte. J'allais dire presque surtout s'il y a un texte, par des accessoires, des objets, des choses que je ramasse, une espèce de folie, de récolte. Et puis le travail aussi de l'espace, c'est-à-dire au fond la boîte à jeux qui est pleine, qui est comme une manigance, enfin une manigance très très empathique avec les acteurs. Mais une fois qu'ils arrivent sur ce territoire, il y a plein de propositions, mais il y a aussi plein de contraintes. Il y a des recoins, il y a des choses où il va falloir se poser. Donc cette préméditation de l'espace, cette préméditation de l'accompagnement, parce que les objets, les choses sur le plateau sont vraiment des compagnons de jeu. Toute forme de préméditation de son aussi. Je travaille beaucoup en amont avec quelqu'un pour le son. On travaille en studio et j'arrive avec des matériaux sonores. Et je pense qu'on crée les conditions aussi. Alors moi, je travaille, j'espère toujours faire attention à la délicatesse à l'égard des acteurs, même peut-être à une certaine douceur, parce que l'aveu, et surtout si on veut que la chose ait une grâce, et souvent une grâce comique, il faut que les conditions de cet aveu soient là, et c'est très délicat. Sinon, vous savez, un acteur, c'est très virtuose, donc ça peut être qu'un artifice. Ça va devenir un artifice, mais dans un premier temps, il faut que ce soit un véritable aveu. Donc une espèce de transfert du presque soi, comme ça.
Donc votre travail, c'est de mettre en condition. C'est ça ce que vous faites, Masha Makeyev, au quotidien. Vous mettez en condition des acteurs.
Je prémédite beaucoup. Je vous dis, au moins un an avant, et après on crée les conditions du hasard poétique, et on cherche les hasards poétiques. Ça, c'est le premier temps, c'est-à-dire ce que je vous dis, la nef des fous. S'il faut faire le chien, on fait le chien, on fait tout ce qu'on veut. Ça, c'est le moment de folie. Si quelqu'un entre dans la salle, il se dit, mais c'est des malades, qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est impossible, qu'est-ce que ça fait dans une société, des gens comme ça? Ou c'est des poètes, pour les plus bien, les bienveillants diront ce sont des poètes, mais ou des grands enfants. Mais après, il y a une méthode. Après tout, le théâtre est une chose s'inventer. Et quand on est très jeune, on croit qu'on invente quelque chose. Bien sûr qu'on invente sur l'instant, mais on fait partie d'une grande tradition qu'on ignore, mais qui tôt ou tard est là, et qu'on découvre, et on se dit, ah oui, tiens, il y a 20 ans, il y en a un qui a fait ça, puis il y a 150 ans, et puis il y a 200 ans, et on s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse et qui était derrière nous et qui est devant nous. Et le deuxième temps est plus, il y a un dogma vraiment avec tout l'arbitraire que ça suppose et qu'on impose aux acteurs. Et généralement, ils aiment bien les contraintes. Les bons artistes aiment les contraintes. Et là, il y a vraiment une méthode, c'est-à-dire que là, c'est un travail de montage. Qu'il y ait une œuvre ou pas, alors quand il n'y en a pas, évidemment, c'est vraiment un montage comme un montage de cinéma, c'est-à-dire qu'on recueille des moments et on va en faire, on va écrire une partition jour après jour avec ces moments-là. Mais après tout, quand il y a un texte, évidemment que déjà on travaille beaucoup le texte, et ça il faut absolument s'en imprégner, il faut le faire soi. Moi en ce moment je travaille Bulgakov depuis un an, j'ai l'impression qu'on nous a enfermés dans une même chambre, un peu sale, un peu étrange, un peu avec des bruits de guerre tout autour, et puis quelquefois des fulgurances. Mais j'ai toujours l'impression, parce que je ne l'ai pas encore quitté, qu'on est ensemble dans la même pièce très souvent. Ça tient, c'est presque halluciné comme sensation. Mais avec les acteurs, c'est la même chose. Il faut après travailler cette partition. Quand il y a un texte, ça fait partie de la partition, comme un bruit le fera, comme un geste, comme un déplacement, comme un silence. Et tout ça se construit très musicalement.
Alors justement, le travail de l'écriture, quand vous faites travailler vos propres textes aux acteurs, ça a été le cas avec les Des Chiens, je crois que ça n'était pas très écrit, c'était des notes. Comment vient chez vous le travail d'écriture, comment apparaît-il et comment l'accompagnez-vous?
Alors déjà, ce que vous dites, les Des Chiens, il y a deux choses. Il y avait au théâtre des spectacles qui étaient vraiment répétés, travaillés, qui étaient comme des partitions extrêmement précises que l'on fabriquait avec Jérôme et les acteurs, et avec un dogma très strict. Il y avait vraiment des interdits, il y avait vraiment... Ouh là là, c'était...
Quels interdits ?
Il y avait plein de choses qui n'étaient pas possibles, comme, je pense, certains musiciens, je ne sais pas, aiment la tonalité ou l'absence de tonalité. Voilà, on avait comme ça une espèce de musicalité, de rythmique, même de thématique impossible, au profit de choses extrêmement fragiles qu'il fallait recueillir et qui ne devaient pas être écrasées par du savoir-faire, par de la virtuosité facile, par du triomphalisme. Toute chose qui quelquefois est extrêmement jubilatoire sur d'autres scènes, hein, j'entends bien, mais pas chez nous. Et quand il y a un texte, c'est autre chose. Moi, je suis comme une missionnaire. Hein, mon éducation protestante revient. Le texte, c'est le texte. Là aussi, une part de sacré. Là aussi, quelque chose qui vous est confié. Et puis les voix des acteurs. C'est-à-dire que même quand j'ai pas encore ma distribution, je prends les voix de ceux que je connais, de celles que je connais, pour me faire entendre le texte. Et je me dis, tiens, à ce moment-là, il ferait ça, ou il respirerait là. Et j'ai besoin d'incarner comme ça. Voilà. Donc c'est un travail, après évidemment, la moindre des choses, le travail littéraire, la moindre des choses. Là, en l'occurrence, je suis absolument obsédée par Bulgakov, vous allez voir. Il reviendra sans arrêt, mais évidemment l'adaptation, donc le retour au texte, et puis évidemment l'accompagnement du romancier, parce que là, c'est un texte, La Fuite, qu'il a écrit directement pour la scène, un des rares, mais il écrivait en même temps Le Maître et Marguerite, donc il y a sans arrêt des allers-retours et des jeux.
Il faut dire que si vous êtes obsédé par ce texte, c'est parce que vous le montez actuellement, oui. Et qu'on le verra à la criée.
Je vais le répéter début juillet, oui. Oui, oui. On va le jouer en octobre. Oui.
Oui, parce qu'on s'est arrêté tout à l'heure dans la présentation sans dire que vous étiez directrice depuis 2011 du théâtre de la criée, oui. À Marseille. Alors ça fait quand même beaucoup de choses, ça, Macha Makeyev. Est-ce qu'il y a une forme d'art que vous n'avez pas exploré et que vous auriez aimé explorer davantage, ou que vous aimeriez dans le futur explorer davantage?
Non, dans le futur, c'est pas possible. Non, évidemment que ce que j'aime par-dessus tout, c'est la peinture, et j'espère m'approcher du théâtre comme le ferait un peintre. Mais il se trouve que le peintre est dans une extrême solitude, et que nous, au théâtre, à la fois c'est terrible et à la fois c'est magnifique. On ne peut rien faire sans l'autre. Vous pouvez avoir toutes les rêveries que vous voulez. À un moment donné, il faut en passer par la compétence de quelqu'un d'autre. L'éclairagiste, l'acteur.
C'est peut-être pour ça, au départ, que vous avez fait du théâtre et pas de la peinture.
Oui, certainement. J'ai beaucoup d'appétit, de curiosité, de l'intelligence de l'autre, et de trouver l'émotion de l'autre, et de faire une partie du chemin avec quelqu'un en face de moi. J'aime beaucoup ça, oui.
Qu'est-ce que c'est pour vous, justement, la peinture? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, hormis le fait que travailler ensemble était peut-être pour vous quelque chose que vous aviez envie de faire, travailler avec d'autres personnes qui vous a fait choisir le travail collectif du théâtre, qu'est-ce qui fait que finalement vous avez mis à un moment donné au second plan ce qui revient peut-être aujourd'hui davantage, c'est-à-dire la peinture et les arts plastiques de manière générale.
Non, j'ai jamais quitté ça. Le théâtre qu'on faisait avec Jérôme et même les premiers spectacles que j'ai faits, c'est toujours les objets, la matière, les couleurs, c'est toujours la part plastique, cette façon de diriger les acteurs par autre chose que le discours. Leur faire enfiler une pièce de costume, c'est vraiment tout un discours du corps et de la contrainte et pourquoi ils vont être un peu serrés et pourquoi il y a des choses et on s'est parlé du personnage et c'est déjà commencé à être sur scène. Il y a rien de pas prémédité là-dedans et la part plastique a toujours été présente et puis dès que je finissais un spectacle, quand on travaillait à deux, j'avais très souvent une exposition des objets que j'avais pas pu mettre sur le plateau et qui étaient là comme des espèces de naufragés et j'ai toujours eu un sentiment de mission à l'égard des choses et je les prenais et je les exposais pour raconter dans un théâtre immobile, enfin faire une autre célébration. Mais oui, c'est quelque chose pour moi depuis toujours, un rapport aux choses et une mission que j'ai par rapport à ces choses, de leur donner une destinée. Donc la part plastique, elle est toujours présente, mais moi, j'ai voulu faire. Enfin, j'ai pensé que c'était le théâtre très naïvement parce que, à 13 ans, chez un de mes grands oncles qui était italien et qui avait été chef d'orchestre, qui était déjà un vieux monsieur, il y avait un livre en italien sur les ballets russes. Et déjà, il y avait écrit les ballets russes. Et je me disais, tiens, bon, donc il y a des gens un peu à côté comme nous, qui étions un peu socialement étranges. Hein.
Un peu russe.
Oui, un peu russe, un peu bizarre, comme ça. Et puis, cette partie italienne qui reconnaissait, parce qu'il parlait beaucoup de spectacles, voilà, et je me suis dit, tiens. Et puis, ce grand-oncle m'a expliqué que c'était des gens qui étaient à la fois peintres, décorateurs, danseurs, poètes, musiciens, qu'ils vivaient tous ensemble, comme ça, et que. Voilà, et très, très naïvement aussi, parce qu'il faut aussi cette innocence-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Précisément parce que c'était l'art total.
Oui, bien sûr. Et puis bon, après, comme dans la littérature aussi, c'est ceux-là que j'aimais, ceux qui ne faisaient pas de différence entre la typographie, le mot et le tableau et toutes ces choses-là, que ce soit les premiers Russes du XXe siècle, mais aussi les dadaïstes, enfin tous ces gens qui passaient d'une scène à l'autre, et quelquefois une scène très modeste de papier. Voilà, donc je continuais, mais ça c'est quand on commence à fréquenter les autres. Avant, il y a déjà un secret, oui.
Donc vous avez été non seulement scénographe, on va en reparler, vous occupez toujours de la scénographie, vous vous occupez en particulier de la scénographie de votre prochain spectacle.
Pour moi, c'est la même chose. Je veux dire, mettre en scène, pour moi, je peux pas mettre en scène si je sais pas où ils vont évoluer, où ils vont s'asseoir, sur quel tabouret, où est-ce qu'ils vont passer, par quelle porte, quel est le battement de cette porte, s'ils sont contre du jaune ou du bleu. Voilà, c'est impossible. C'est la même chose, c'est le même discours. Après, c'est un travail spécifique. Moi, je travaille à l'ancienne avec une maquette, des lumières. Après l'atelier, hier, j'étais à l'atelier du TNP où se construit le décor de la fuite.
Alors justement, racontez-nous,
c'est très important.
Qu'est-ce qui se passe quand vous allez visiter un décor en train de se faire ? Qu'est-ce que vous voyez ?
Le premier passage, ça c'était le second, donc les choses ont déjà lieu. Le premier passage, on arrive, ils ont eu des plans et ils procèdent à des volumes. Et on veut avoir les premiers volumes et le rapport des volumes et la mobilité des choses, parce que ça, c'est un décor très mouvant, comme ça se passe, il y a 8 songes successifs. Le deuxième, il y a déjà les premiers échantillons, parce que moi j'arrive avec du matériel, des échantillons, des bouts, des bouts de ferraille, des choses comme ça, en disant je voudrais cette couleur, cette matière, etc. Et le deuxième, c'est-à-dire hier, j'ai vu des réalisations déjà, j'ai vu une porte peinte, j'ai vu des choses qu'on a corrigées ensemble, et puis avec des sauts de peinture, et puis après j'ai vu aussi toute l'intelligence de la construction d'un décor. Vous savez, quand je vous parle de chaîne de compétences, je saluerai jamais assez les régisseurs, mais je saluerai jamais les constructeurs assez. Vraiment, parce qu'on monte et on démonte. Par exemple, Trissotin ou les femmes savantes, on en est, je crois, à 120 ou 130 représentations. C'est-à-dire qu'on démonte presque tous les soirs et on remonte. Et il faut un jeu de construction d'une habileté et d'une solidité incroyable. Voilà une grande tradition. Et sans eux, qu'est-ce qu'on ferait ? Voilà. Donc c'est une grande émotion et en même temps, c'est une émotion et après, c'est un trac terrible parce que je suis repartie prendre mon train pour venir vous voir jusqu'ici de Lyon. Et dans le train, je me disais, ça y est, les dés sont jetés aussi, les volumes sont là, les proportions sont là, la boîte est là, c'est un mélange d'excitation et en même temps de quelque chose aussi qui commence un peu à freiner, à s'arrêter, on va faire avec. La rêverie va laisser la place à ce qu'on appelle la création avec les autres. C'est des moments comme ça très, que je pourrais, à force de les avoir vécus, je pourrais décrire jour à jour.
Et par exemple, sur ce décor de la fuite, avez-vous commencé avec un papier et un crayon ? Avez-vous commencé en vous baladant ? Comment est-ce que vous avez débuté la conception de ce décor ?
Il y a déjà, en ce qui concerne la fuite, les didascalies de Bulgakov qui vous dit, par exemple, il arrive du mur, il traverse et il arrive du mur. Donc il n'y a pas de porte. Et cette rêverie poétique, mais vraiment... au début est effrayante et après est magnifique parce que ça nous dit vas-y, traduis, comment tu fais, comment tu racontes ça. Et après je commence à ramasser j'engrange dans ce qu'on appelle la fabrique à la criée, qui est un peu le pendant de mon atelier à Paris, sous les toits, un endroit où j'accumule beaucoup d'objets que je sais qui joueront, et à partir de ces couleurs, de ces formes, par exemple il y a des grandes verrières dans la fuite. Mais je me disais, c'est pas du verre, c'est pas possible. Dans un rêve, il n'y a pas du verre. Et puis ça va être lourd, et puis c'est pas pratique, et puis c'est pas bien, et c'est pas du verre. Et puis tout d'un coup, j'avais trouvé, Boulevard des Libérations à Marseille, chez un tout petit brocanteur, libraire, un garde-manger en grillage. Et tout d'un coup, j'ai vu le visage de Margot, qui est mon assistante, qui passait derrière ce grillage, et il se trouvait qu'il y avait une très belle lumière. Je me suis dit, mais c'est ça la verrière, c'est un double grillage. Et ça commence comme ça. Après, évidemment, faut dessiner, après, faut être très précis, parce que comme on réalise, et on fait même un leurre du décor, pendant lequel je fais un workshop, un atelier avec les acteurs, et je vérifie toutes les dimensions, les mouvements, les portes, les percées que j'imaginais. Avec Jean Bellerini qui éclaire le spectacle, on a déjà une conversation. Et enfin, on fait ce qu'on appelle sur le plateau de la criée une bauprobe, c'est-à-dire qu'avec tous les leurres de décor, on fait tous les mouvements du décor. Et on vérifie les proportions, et on vérifie la mécanique, et on vérifie que ça dise quelque chose et que le récit ait lieu. Et après, on fait fabriquer.
Ce travail, vous le faites pour vous, mais vous l'avez fait aussi pour d'autres. Vous l'avez fait pour des spectacles de votre fille, par exemple. Est-ce que c'est différent ?
Oui.
D'imaginer pour les autres un décor, et comment travaille-t-on avec un metteur en scène qui n'est pas soi-même ?
Là, je prendrais par exemple, pour être très concrète, les costumes que je viens de faire, les deux dernières séries de costumes que j'ai imaginées. Il y avait effectivement pour Juliette Deschamps, qui est ma fille, qui a monté Sarah Bernard Fan Club, avec une troupe à Perm, vraiment une troupe russe magnifique, avec cette énergie de troupe, et j'étais aussi très curieuse de voir travailler Juliette, qui a un imaginaire très, très singulier, mais aussi de voir, d'être de plein pied avec une troupe russe. Et habiller ses corps que je ne connaissais pas, et imaginer au travers de l'adaptation qu'elle avait faite, le mouvement, parce que ce sont des gens qui se travestissent au fur et à mesure du spectacle. Ça me plaisait beaucoup que le costume soit non seulement le costume civil dans lequel entrent les acteurs, mais après ce dont ils s'emparent, puisque ça se passe dans un musée et ils vont chercher les costumes du musée. Alors ça me plaisait beaucoup, mais je suis complètement au service de, et ça j'aime infiniment, écouter, percevoir l'univers de quelqu'un d'autre. Là, en ce moment, je travaille pour Jean Bellerini qui monte Eris Mena de Cavalli au Festival d'Aix. Et là, je fais les costumes aussi pour Jean. Et c'est pareil. C'est pas la première fois que je travaille les costumes pour Jean Bellerini. Mais là, c'est pareil. C'est pour moi l'occasion d'avoir un autre point de vue, une autre approche extrêmement, là aussi, délicate, et de faire comme la deuxième peau des acteurs et d'arriver contre leur épaule. J'aime beaucoup, et en même temps poser les couleurs, et toujours, toujours avec le regard de celui ou de celle qui fait le spectacle, parce que cette position de modestie est un endroit magnifique.
En 2006, vous aviez créé les décors de la pièce de Beckett, La dernière bande,
oui,
montée à l'époque par Alain Milianti, c'était au Théâtre du Nord. Vous vous souvenez un petit peu de tous ces objets que vous aviez mis sur scène, parce que les objets, on sent bien que c'est primordial pour vous. Vous allez les chiner, vous pouvez peut-être nous raconter d'ailleurs comment est-ce que vous trouvez toutes ces choses que vous mettez ensuite en scène et sur scène.
Alors là, je reprends un chemin que j'ai connu toute petite, qui était que je ramassais beaucoup de choses et qu'on avait. Ma mère nous avait fait un sac, mon frère qui ne parlait plus et moi, et on ramassait les objets dans un sac et le soir on vidait le sac et on racontait une histoire. Et je crois que j'ai jamais quitté cette façon de faire, c'est-à-dire je pars en mission vraiment. Ça devient un peu plus compliqué quand on dirige un théâtre que de trouver une longue journée où on se dit mais où elle est passée. Parce que je vais chercher des choses comme ça. Mais j'ai aussi des stocks maintenant, donc c'est bien, je les connais, je vais les chercher. Et les recalés finissent par venir sur scène. Oui, je ramasse, voilà, j'ai des itinéraires et c'est un état un peu halluciné. Je pars en mission, vraiment.
Vous souvenez d'un objet en particulier, d'un objet que vous auriez vu et tout de suite il vous aurait fait comprendre quelque chose d'une mise en scène à venir, par exemple, ou d'un décor à venir?
Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est surtout une échelle. Un objet, c'est l'échelle d'un espace. Ça commence par là. Je vous parlais du garde-manger, c'est exactement ça. Le poser, l'accrocher, le mettre à côté de soi. L'acteur peut le prendre, peut le transporter. Comment on embrasse cet objet-là? Comment la lumière va le traverser? Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Un garde-manger, quand c'est la guerre civile et qu'on a faim, qu'est-ce qu'on y met? On y met peut-être une arme, on y met peut-être des cartes, on y met peut-être, oui, un jeu de cartes. Parce qu'il faut jouer même quand c'est la guerre. Voilà, tout cet objet va proposer beaucoup et il va en même temps avoir une telle réalité que vous pouvez pas partir. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas tricher. Il est là. Il faut l'éclairer. Il est là. Il faut le remplir, le déplacer. Il s'impose. Et pour l'acteur, c'est à la fois une contrainte terrible, mais c'est une vraie conversation. Et j'aime beaucoup les premiers jours, et c'est pour ça qu'on fait des ateliers, quand les acteurs arrivent dans la boîte à jeux, comme ça ils sont là, et ils disent, mais ils s'interrogent sur « elle est où ma place ?» Et je les lâche comme vraiment comme des fauves, et je leur dis « voilà, qu'est-ce que vous faites là-dedans »
Allez-y. Ils ont le droit de déplacer les objets, par exemple dans la dernière bande, est-ce qu'on avait le droit de déplacer, est-ce que l'acteur avait le droit de déplacer les objets?
Ça, c'était pas ma mise en scène. Alors après, là... c'était une autre règle du jeu, mais je souffrais. Oui, si ça se déplaçait trop, je souffrais. Mais là, non. À la fois, il y a des choses, je leur dis, non, ça c'est fixe. Et puis d'autres, vas-y. Voilà. Mais je mets beaucoup de choses sur roulette aussi. Il y a beaucoup des choses qui transportent. Donc aussi, je les vois se déplacer, les acteurs. J'apprends aussi à les voir dans le déplacement, dans l'inquiétude d'un déplacement. Tiens, ça roule mal. Ou... Voilà, plein de petits aveux comme ça aussi qui vont construire le personnage, avec lequel on va ensemble construire le personnage. Ce matin, avant de vous rejoindre, Mathieu, j'ai passé plus d'une heure avec Thomas Maurice, un de mes acteurs, qui est aussi un chanteur lyrique, et qui va jouer quatre rôles successifs, mais un principal, Africanus, l'évêque, dans La Fuite. Et on a parlé, on a passé au crible tout ce qu'il pouvait me dire sur son personnage, tout ce que je pouvais lui dire, mais inévitablement, on a parlé d'objets très très concrets et comment il allait ranger cet objet dans son costume et pourquoi cette femme, parce qu'il joue aussi une femme, elle transporte cet objet parce que s'il est question d'exil, parce que quand on part, on abandonne quelque chose et on prend autre chose et puis il y a des échanges et puis il y a des choix terribles. Donc l'objet est tout le temps là. Mais ça évite aussi beaucoup de discours psychologiques où le metteur en scène pourrait paraître beaucoup plus intelligent. Bien sûr qu'on a de l'avance. Ça fait un an que je suis avec ce texte. Bien sûr que j'ai lu tout ce qui a trait à cette œuvre, à Bouliakov, à cette époque, tout ce qui s'est passé. Bien sûr que je me suis plongée dans l'histoire. J'ai pris de l'avance. Je ne vais pas les écraser avec ce savoir, peut-être provisoire. Non, non, on parle de choses très concrètes. Ce sont des réserves poétiques, les acteurs.
Donc on vous imagine, Macha Makeyev, vous promenez à Marseille, chiné, et comme on sait que vous vous intéressez, que votre travail finalement est aussi, on en parle depuis tout à l'heure, celui de la scénographie, mais que vous avez aussi fait des expositions, on se dit que quand vous vous promenez dans Marseille, les yeux grands ouverts, vous regardez aussi l'architecture, vous regardez aussi les bâtiments, oui. Vous regardez le Mucem peut-être.
Oui, c'est vrai que j'aime infiniment le rôle de l'architecte, de l'urbanisme. C'est quelque chose qui me plaît dans le vrai sens du terme et qui en plus, même dans l'histoire de l'art, puisque je l'ai étudié, me fascinait, c'est-à-dire créer un espace public. C'est quelque chose d'inouï de créer l'espace qui va être fréquenté par d'autres et qui va entrer dans leur paysage. Quelle responsabilité! C'est vrai que moi je travaille beaucoup avec des choses extrêmement ordinaires. Alors très souvent on me dit c'est du kitsch. Pas du tout, c'est le contraire. C'est la célébration de ce qu'il y a de beau dans le cassé, dans le marquemal, dans ce que d'aucuns diraient minable, dans celui qui est un peu repoussé sur le côté, et chez les êtres et chez les choses. Mais tout d'un coup, l'architecte, lui, il dessine ou elle dessine un espace comme ça. Et cet espace va devenir, je vous dis, le paysage des autres. Et je trouve ça, donc il y a la beauté, mais il y a aussi la considération. Et je prendrai un exemple très précis. À Marseille, il y a eu le Mucem, mais il y a aussi le fait qu'on a redessiné, on a confié à des urbanismes comme Foster, comme des gens magnifiques, on leur a confié l'espèce de promenade qui part du Fort Saint-Jean pour aller au Fort Saint-Nicolas, c'est-à-dire qui fait tout le tour du Vieux-Port. Et là, tout d'un coup, c'est bien sûr que c'est de la beauté, c'est des proportions, c'est de l'intelligence, c'est du savoir-faire, c'est le choix des matériaux, mais c'est de la considération. C'est-à-dire que quand vous vous promenez d'un fort à l'autre, que vous habitez cette ville, que vous venez peut-être d'un quartier très loin, d'où il est difficile de venir, quand vous marchez là, vous marchez différemment parce que vous êtes considéré par l'espace, par la beauté. Ça, l'histoire de l'art est traversée de ça. Les places italiennes ne racontent que ça. Quand vous êtes en bas d'un bâtiment en Italie et que vous avez la proportion de vous êtes comme un acteur de votre vie. Vous avez tout de suite une relation d'humanité avec celui qui est à côté de vous. C'est pour ça que quand les architectes ratent quelque chose, c'est très grave. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont toute ma bienveillance quand ils réussissent.
Vous avez fait du cinéma aussi, Masha Makeyev.
Oh non.
En 2009, vous avez travaillé avec Jérôme Deschamps et encore d'autres personnes, car le cinéma est pour le coup un art extrêmement collectif. Vous avez travaillé sur la véritable histoire du Chaboté, un film d'animation. Ça, c'était un nouveau genre pour vous ?
Non, c'est pareil, c'est la même chose. Il s'agissait du cinéma d'animation, donc partir des acteurs. Il y avait un côté expérimental qui m'intéressait beaucoup. Moi, c'était la part plastique, notamment les costumes. Et plutôt que de dessiner des choses en 3D, je suis partie de vrais costumes avec des vrais matériaux. Donc, c'était vraiment un exercice et une façon d'apprendre et de s'amuser. On aimait beaucoup et on aime toujours avec Jérôme les chemins buissonniers. Vous parliez des déchiens de la télévision, c'était vraiment un chemin de traverse. Tous les soirs, on était au théâtre et notre métier, notre mission, c'était la scène. Mais en plus, on faisait ça avec nos acteurs formidables et une troupe très très unie et qui pouvait jouer comme ça une autre partition très facilement. Le cinéma, non, je le mets tellement. Pour moi, il est tellement important. Vous savez, je suis de cette génération du ciné-club dès l'âge de 11 ans où on mettait une pièce dans la boîte en métal et on s'asseyait dans le réfectoire et on voyait les choses les plus belles du monde sur des copies toutes rayées. Moi, c'est mes premières images. Je vous dis, je suis de culture protestante, donc il n'y avait pas grande image. On avait tourné le dos à l'orthodoxie pour de très bonnes raisons d'ailleurs, mais on avait tourné le dos à ce théâtre-là religieux pour l'austérité. Et moi, les premières grandes belles images à 11 ans, c'était le cinéma. Donc j'ai pour cet art-là une à la fois une volupté, mais aussi pour moi c'est immense le cinéma d'auteur, j'entends. Si bien qu'il faut toute une vie, on nous a proposé très souvent avec Jérôme, vraiment, et des gens très sérieux et qui avaient des conditions formidables pour que nous fassions du cinéma. Et de mon côté, j'ai jamais voulu parce que je pense qu'il faut toute une vie. Je veux dire, si c'est un film de théâtreux, bon, mais ça peut être très beau, hein, je dis pas, mais ça m'aurait pas suffi.
Qu'est-ce il y a une écriture. Pour y arriver.
Il faut une écriture. Il faut passer sa vie à ne penser qu'à ça. Il faut. Cette nuit, je regardais encore. Des documentaires russes sur Tarkovsky et sur ses relations avec l'homme qui fait ses images, son opérateur, et très houleuse. Mais voilà, il faut toute une vie. Il faut toute une vie pour regarder un paysage. Et vous regardez un film de Bellatar, il faut toute une vie pour dire qu'il y a quelque chose d'organique dans nos vies et que le cinéma, mieux que la vie, peut le montrer. Enfin, je veux dire, j'aurais jamais pu faire du cinéma par-dessus la jambe. En plus, comme on était dans l'écriture comique, vous imaginez vers quoi on voulait nous emmener. C'est compliqué, l'écriture comique. Chaplin, Keaton, enfin, tous ces gens que j'admire par-dessus tout, tous ceux qui sont passés de la scène du musical à la scène du cinéma et qui ont inventé le cinéma muet, le premier cinéma. Attendez, c'était des gens qui ont consacré leur vie.
Non. Vous avez l'impression...
Moi, il me nourrit toutes les nuits, donc ça va très bien.
Vous regrettez peut-être d'avoir fait jusque-là tant de choses. Est-ce que pour vous, Il y a l'idée d'une dispersion, parce que quand vous dites il faut toute une vie pour apprendre à faire du cinéma.
Il faut toute une vie pour faire du théâtre, il faut toute une vie pour faire du théâtre avec quelques pauvres objets, de magnifiques acteurs et un espace réduit. Et puis cette échelle du théâtre où vous racontez le monde sur 10-12 mètres carrés, il faut toute une vie et il faut un pacte scellé dans l'enfance et il faut le renouveler sans arrêt. Et en plus, il faut plein de moments d'émancipation et puis il faut faire attention parce qu'on est une femme à ce qui pourrait être la mort psychique et puis il faut continuer. Et... Non, je suis quelqu'un de très concentré. Mais ma rêverie se nourrit de tout et ce cinéma m'habite complètement, au moins autant que la littérature.
Il faut faire attention parce qu'on est une femme.
Oui. Dans la création, vous savez, c'est pas une chose qui... je veux dire des banalités. Dans l'histoire de la création, les femmes sont très souvent transparentes. Et le danger est de pas se perdre dans le labyrinthe. Parce qu'on y entre, la fleur au fusil et avec toute la vaillance et l'amour qu'on peut imaginer quand on a 19 ans et... Et puis après, je vous dis, c'est un labyrinthe un peu qui peut être meurtrier. Il y a un très joli livre de Lydie Dattas. Et elle écrit, en fait, elle fait une réponse à Jean Genet qui lui dit qui est très violent avec elle et qui dit et en plus c'est une, je ne veux plus l'avoir et en plus c'est une femme. Et elle écrit ce livre. Comme réponse, pour lui dire que de la malédiction d'être une femme, il peut y avoir un long et très beau poème. Et quand Genet reçoit le poème, il vient vers elle et il lui dit merci. Et il y a plein de... Oui, je vous dis, on peut se perdre.
Pasolini, ce serait une de vos références en termes de cinéma?
Oui, absolument. C'est une absolue référence parce que c'est un poète, c'est les mots, c'est la beauté, c'est la transgression absolue, c'est la liberté totale et c'est la sensualité. C'est-à-dire que c'est Naples, c'est Marseille, c'est toutes ces villes d'incarnation, de destin, c'est beau, il y a le sens de la destinée humaine et en même temps la beauté des corps tout le temps, ce corps qui, parce que au théâtre, il n'est question que de ça.
Vous n'avez pas parlé tellement de musique, et pourtant la musique est très importante pour vous. Schubert, par exemple, évoque pour vous peut-être des mises en scène. Quel est le compositeur, ou peut-être même le musicien, que vous aimeriez citer parmi vos influences?
Il y en a plein. Alors, ce que je peux vous dire, on n'a pas parlé de musique, mais c'est vrai que quand on parle de théâtre, pour moi, on parle forcément... Quand on parle de, je vous ai dit partition, c'est parce que si un spectacle n'est pas musical, pas dans le sens qu'il contienne de la musique, mais qu'il n'a pas cette espèce de rythmique euphorisante et belle et vraie, et s'il n'est pas écrit de ce point de vue-là, pour moi, il s'effondre. Et j'aime beaucoup écouter la représentation tout autant que de la voir. Et à l'écoute, je sais si elle est bonne ou pas. L'écriture d'un spectacle, même s'il y a un texte, c'est sa musicalité. Après, la présence des musiciens, bien sûr, en ce moment, c'est Shostakovich, mais c'est aussi tous les Français, Millot et Ravel et Debussy, Poulenc, bien sûr, sa fantaisie, ces gens d'une immense fantaisie, c'est-à-dire le savant et la fantaisie sans arrêt. Et en même temps, comme par hasard, ce sont des gens, des artistes de fracture. 14-18 pour certains, cette guerre et l'émancipation et la rédemption par l'art. Et Shostakovich, c'est l'artiste empêché, tout comme Bulgakov, ce sont les mêmes, ce sont des artistes qu'on a fait souffrir comme ça, tout sans arrêt, en les empêchant dans les petites et les grandes choses. Ce qui s'ensuit, c'est du sublime, mais en même temps, c'est d'une exigence incroyable. Et je ferai vraiment le parallèle entre une œuvre de Shostakovich et la fuite de Bulgakov. C'est pareil. Ça s'écrit de la même façon. Chez Bulgakov, il y a 8 songes. Et dans chaque songe, il y a des variations autour d'un thème qui se retrouve. Rien n'est laissé au hasard et tout se répand et tout est écho. Voilà, comme dans une symphonie ou même dans un quatuor de Shostakovich.
Votre grand-mère était aussi musicienne. Elle faisait du music-hall. Je crois que vous l'accompagniez parfois à l'Armée du Salut quand elle allait chanter.
Oui, c'est-à-dire que j'ai eu... Dans une enfance un peu douloureuse, deux lieux que j'ai beaucoup aimés, chez les Russes Blancs à Lyon, mes grands-parents et leur folie, leur rêverie, leur côté halluciné, le fait que c'était fini et que j'étais née du côté des vaincus, j'ai beaucoup aimé qu'ils étaient totalement décalés, le serait jusqu'à la fin de leur jour. ils étaient apatrides et russes d'une Russie qui n'existait plus. Et de l'autre côté, c'était une joie de vivre, mais c'était aussi des émigrés italiens. Et ma grand-mère italienne était pianiste, hein, elle a fait le conservatoire, elle était pianiste, et elle a été pianiste de cinéma muet à l'âge de 14 ans, elle préparait son programme, et voilà. Et puis après, elle a joué à l'Alcazar à Marseille, on lui a demandé, et puis après, elle s'est fiancée, donc c'était compliqué, son mari lui a dit que donc, ça ne se faisait pas, une jeune femme ne devait pas se produire, donc elle a après préparé les musiciens pour l'opéra, et donné des cours de piano, et puis s'est émancipée aussi de tout. Et elle m'emmenait à l'Armée du Salut parce que, à la fin de sa vie, elle composait des cantiques pour l'Armée du Salut. Dans notre famille, il y a une tradition de cet aspect du protestantisme pour lequel j'ai moi-même la plus grande estime. C'est-à-dire aller vers les plus perdus.
Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement, Masha Makeyev, dans votre métier? Est-ce que le plus difficile, c'est aussi les critiques? Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous les lisez?
La réception du public est essentielle. La réception de mes amis artistes est essentielle. C'est les premiers échos que je cherche. On est assailli de doutes. Donc forcément, les gens qu'on entend ou qu'on lit, pour lesquels on a une estime, quand ils vous blessent vraiment. Je ne vais pas faire semblant. Mais je vais pas à la recherche de ces critiques parce que je suis... oui, j'ai pas trop de cuir. Je sais pas trop faire. Donc... maintenant, un peu plus, mais il y a eu une période de ma vie où c'était déjà compliqué de continuer. Mais si en plus, on disait des choses qui étaient quelquefois des contre-vérités sur, on peut aimer ou ne pas aimer, mais moi, j'aime pas beaucoup le point de vue de la consommation d'un spectacle. Je pense qu'il faut prendre en compte tout le processus de fabrication et d'inspiration des artistes avant de dire plutôt c'était bien, c'était pas bien. Bien sûr que ça fait que c'est quelque chose qui fait mal, mais il y a eu tellement de gens qui ont su regarder, qui ont su nous dire que ma reconnaissance sera toujours plus grande que ce que j'aurais vu de négatif là-dedans.
Et vous-même, quand on vous demande votre avis, quand d'autres artistes vous demandent votre avis, comment réagissez-vous si vous n'avez pas aimé, par exemple ?
Comme j'ai affaire à des artistes et que je sais bien que comme moi, certains sont... il y en a qui sont plutôt costauds, hein, mais d'autres sont très fragiles aussi. En même temps, on a une conviction, vous savez, on ne nous fera pas arrêter comme ça. Et puis je pense à ces artistes empêchés qu'on a évoqués tout à l'heure. Franchement, nous, c'est rien, c'est des griffures à côté, c'est rien du tout, quand on a la liberté. Mais j'essaie d'avoir un peu de délicatesse, mais surtout de la bienveillance. Voilà. Et notamment pour les jeunes générations, qui me fascine, que je vois, dont je vois l'élan, et je trouve que c'est la plus grande émotion, là, comme directrice et programmatrice d'un centre dramatique national. Après tout, le grand bonheur, c'est de voir se lever de jeunes artistes avec une force, un élan, qui découvrent et redécouvrent à chaque fois les règles du jeu, et c'est, voilà, ça, c'est inouï. C'est la rédemption, le théâtre, c'est la rédemption.
Et oui, parce que maintenant vous êtes du côté de la direction du théâtre, même si vous continuez bien entendu à mettre en scène. C'est un travail que on imagine, vu de l'extérieur, plus à distance de vous-même que le travail de création à proprement parler. Qu'est-ce que vous avez découvert, chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, en prenant votre poste à la direction de la Criée ?
Écoutez, j'avais un projet heureusement très écrit, très précis, étape par étape. Et quand j'ai eu des moments de découragement, de doute, j'ai appliqué étape après étape avec conviction et un entêtement profond. Ce que j'ai vérifié, c'est la solitude. Alors comme artiste, de temps en temps, ça nous arrive, mais là aussi, en fait. Et surtout la première année qui est probatoire, quelque chose qui s'est resserré. Même des gens qui me regardaient d'une certaine façon... j'ai senti leur regard se rétrécir. Ça n'a pas été simple, ça. C'était pas si simple pour moi.
Vous avez perdu une facilité à communiquer avec les gens ?
Oui, il y avait quelque chose de probatoire. Et puis, comme on nous met du côté d'un certain pouvoir, puisque c'est simplement aussi accueillir tel artiste et pas d'autres, etc. Je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai vérifié ce que c'était que ces postes ou d'autres voient du pouvoir. Et à ce moment-là, il y a des rumeurs. La première année était très désagréable, non pas dans le travail, parce que j'avais le sentiment d'avancer, mais dans ce ressenti-là, oui. on a inventé plein de choses sur ma personne qui étaient complètement fausses. Et tel Don Quichotte, j'ai essayé au début de dire non, c'est pas vrai. Puis après, au bout d'un moment, il vaut mieux rire et se dire que voilà, que d'autres sont passés par là et que, après tout, là aussi, c'est une bonne éducation que j'ai reçue, c'est-à-dire que il faut faire ses preuves. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai été entourée de gens formidables aussi, une équipe, dans mon équipe, des gens magnifiques, et on a beaucoup travaillé et on a transformé cet endroit. Et à partir du moment où il y a une métamorphose, c'est une preuve. Une preuve par le plaisir, parce que le théâtre est une réjouissance. Et l'idée, c'était de faire de ce théâtre, de cette criée, avec ce hall, sur le quai, où tant de gens passent sans pousser la porte, et de faire en sorte qu'on pousse la porte, et qu'on sache qu'on est dans une maison d'art et de réjouissance.
Et alors, qu'est-ce que c'est votre quotidien? C'est quoi votre journée, Masha Makeyev?
Ma journée, au fond, elle est très disciplinée. Et en même temps, deux journées ne se ressemblent pas. Mais elle commence très très tôt, elle finit très très tard. Et la nuit est plutôt hantée aussi. Et après...
Elle est hantée?
Oui, c'est-à-dire que... Bien sûr, je dors, mais il y a beaucoup aussi une période de demi-sommeil où les choses, on les note, où on écoute...
Mais on n'entend pas le plaisir, là, du coup. On entend plutôt le fantôme.
Y a des périodes de plaisir, bien sûr. Le plaisir, c'est de, je vous parlais d'écouter un autre artiste, vous parler de son projet, voir ce qui se dessine, et puis l'accompagner, puis voir qu'on peut le faire. Parce que c'est un théâtre de création, donc beaucoup de spectacles qu'on voit à la criée ne sont pas nés quand on les programme. Ça, c'est une exaltation. Enfin, il y a un côté joueur, là, aussi. Et en même temps, de confiance, de bienveillance à l'égard de l'artiste, en lui disant, oui, bien sûr, je crois que ce que tu vas faire, c'est formidable. Et le public, désormais, c'est la même démarche. Le public vient voir ce qui a été créé et il a acheté des billets pour quelque chose qui n'existe pas encore. Donc ça crée un lien incroyable. Ça, c'est le plaisir. Et puis après, il y a beaucoup d'écoute des autres artistes, il y a beaucoup d'organisation de la maison au plus près de ce qui était une compagnie, au fond, dans une grande proximité, une grande collégialité. Ça, je bataille beaucoup pour vraiment que se fasse entendre tout le monde et la voix de tout le monde. Parce que le point de vue de quelqu'un qui est dans tel ou tel bureau, sur une affiche, etc., c'est très important. Et la fabrique sert à ça aussi. Bien sûr que c'est un lieu de préméditation où je fabrique les maquettes, où se rencontrent les premiers costumes, les premiers accessoires, où on répète, etc. Mais c'est aussi un lieu où il y a une immense table et on s'assoit autour et on peut parler de plein de choses et regarder des choses, regarder beaucoup d'images. Moi, je travaille avec un iconographe, Guillaume Cassard, un iconographe à la criée, et tous les jours on parle d'images, de ceux des spectacles, de ceux dans les spectacles, de ceux des affiches, tout ce qui se fait, toutes les images qui sortent et qui sont le premier lien artistique avec le public, tout se fait dans la fabrique.
Donc votre travail de création n'est pas phagocyté par votre travail de direction. Est-ce que vous avez pu conserver, si vous en aviez, un certain nombre de rituels qui sont les rituels de la création?
Je suis une obsédée du rituel. Ça ne tiendrait pas debout, sinon.
Voilà. Mais vous ne nous direz pas lesquels, c'est secret.
Non, mais c'est les choses... En même temps, extrêmement banales, je vous dis ça. C'est, par exemple, avant de s'endormir, toujours un livre d'images, c'est-à-dire un livre de photographie ou un livre de cinéma, ou de la lecture, bien sûr, ça c'est impensable autrement, mais après aussi finir sur des images. Et regarder profondément des images. Et quelquefois, et souvent, par période, c'est des films, des vieux films. Oui. Mais je m'arrête sur des plans. Je ne regarde pas tellement le film dans sa continuité. Ce n'est pas tant ça qui m'intéresse qu'un plan, deux plans, trois plans. Pourquoi ? Le jeu de deux acteurs. Voilà. Au fond, c'est du travail. Oui.
Alors, les collaborations extérieures, pour quelqu'un comme vous, c'est évidemment tout le temps, puisque le théâtre crée ça. Mais vous avez une particularité qui est de travailler beaucoup en famille. Qu'est-ce que ça change, ça, de travailler avec des gens qu'on fréquente autrement que par le travail? Est-ce que ça crée plus de liberté ou est-ce qu'au contraire, ça crée plus de contraintes?
Je ne vais même pas l'analyser. On n'a jamais fait la différence avec Jérôme quand on avait nos quatre enfants, entre la vie et le théâtre. On travaillait sur la table, on mettait la nappe, on dînait, on enlevait la nappe, ils allaient se coucher, on travaillait. Il y avait quelque chose de... Toute notre vie était ponctuée, ils partaient quelquefois avec nous en tournée. C'est quelque chose qui nous est, naturel. Donc je vois pas pour. Alors, bien sûr, je ne produis pas du tout jamais les spectacles des gens de ma famille. Enfin, ça serait là manquer à une éthique, mais vraiment primordiale. Mais après, voilà, m'intéresser à ce qu'ils font me paraît absolument naturel dans mon paysage, comme m'intéresser à ce que fait le spectacle qu'est en train de faire mon assistante Gaëlle Hermand, qui est en train de fabriquer son second spectacle. Ça m'intéresse aussi, parce qu'elle fait partie de mes proches. Mais mes enfants sont maintenant des adultes, ils ont leurs univers, et ça m'est naturel. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Je fais pas la différence, vraiment.
On vous demandait pas que ça s'arrête, on vous demandait simplement ce que ça changeait.
Bien sûr que ça change, parce que je vous dis, il y a ça. À partir du moment où vous dirigez une maison avec des missions très précises et de l'argent public, vous devez être absolument très très clair, et ça l'est. Et j'ai même un plaisir à ce que ce le soit. Hein. Donc voilà, ça j'aime beaucoup la clarté. Mais après, l'intérêt que je porte à un artiste, fut-il mon fils, fut-elle ma fille, pour moi c'est... En plus, je vous dis, le générationnel m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup d'émotions à voir les nouvelles générations inventer, comment elles s'y prennent.
Alors on s'approche de la fin de cette masterclass, j'ai encore deux questions pour vous. La première, c'est, est-ce qu'il y a des œuvres, rétrospectivement, que vous aimeriez reprendre, que vous aimeriez retravailler? Et peut-être l'avez-vous d'ailleurs déjà fait, Masha Makeyev?
Spontanément, non. J'ai pas très envie de reprendre les spectacles. Sauf les opéras, parce que la musique, le chef d'orchestre est là, c'est différent. Mais il y en a un que j'aimerais reprendre, et j'aimerais le reprendre aux Bouffes du Nord d'ailleurs, parce que je l'avais inventé pour les Bouffes du Nord. C'est les Apaches, parce que j'ai vraiment envie de le retravailler, et surtout que c'est vraiment le spectacle qui m'a le plus coûté. C'était le spectacle de l'arrachement, de l'émancipation artistique, et je sais qu'il se dit là-dedans des choses un peu terribles, et que j'aimerais bien le reprendre justement pour pouvoir le regarder avec plus de distance et peut-être un peu moins de douleur. J'en ai parlé avec Olivier Mantelli, Olivier Poubelle, et peut-être qu'un jour ça se fera, mais si je le fais, je voudrais le faire aux Bouffes du Nord, parce que j'ai imaginé ce spectacle et j'ai fait le décor pour aller aux Bouffes du Nord, et j'ai imaginé ce spectacle pour ce lieu où nous avions fait avec Jérôme nos premiers spectacles, et où on avait fait les petits pas aussi, et c'était vraiment comme ça, dans ce lieu qui est très très inspirant et que j'aime infiniment.
Et ma dernière question est, comment sait-on qu'une œuvre est achevée? Et je rajouterai même, saurez-vous un jour si votre œuvre, de manière globale, est achevée?
Non. Vous savez, c'est quand on va mourir qu'elle s'achèvera. Et puis, heureusement que nous, au théâtre, on a la première et cette date couperait, parce que sinon, on est tellement bien dans la salle de répétition qu'on pourrait y rester des mois et des mois et des mois inventés. Mais non, on a un rendez-vous avec le public. Et puis moi, j'aime le public, j'aime ce moment-là. Je suis tellement toujours touchée par les salles qui se remplissent. Mais d'où viennent-ils? Je me pose toujours cette question primordiale. Je suis toujours éberluée par ça. C'est miraculeux quand même. Même s'il y a beaucoup de travail, même si vraiment, il y a quand même un moment où ils arrivent. On parlait de plaisir et d'émotion, voilà, oui.
Merci beaucoup, Masha.
C'était la masterclass de Masha Makeyev avec Mathieu Garrigou-Lagrange. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.